7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michaël Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde, puisqu'il n'y a pas que la présidentielle française, Michaël, direction pour commencer le Brésil.
Et oui, le Brésil où cela fait 10 jours maintenant qu'on assiste au grand déballage public de la famille Odebrecht. 77 cadres de ce géant industriel brésilien disent tout devant la justice et sous l'œil des caméras. Odebrecht, sans doute le nom le plus connu du Brésil, gigantesque conglomérat industriel créé en 1940. Par Norberto Odebrecht, fils d'immigrés allemands qui a fait d'une modeste PME le premier groupe de BTP du pays et même d'Amérique latine. Également présent dans le pétrole, le nucléaire, la défense et le transport. Énorme chantier, énorme contrat, mais obtenu pour la plupart via d'énormes pots de vin. Bonsoir Anne Vignard, en direct de Rio.
Bonsoir Michaël.
Alors vaste système organisé de dessous de table, Anne, système en place depuis des décennies, comme en témoignent ouvertement les anciens cadres du groupe, déclaration dont vous nous avez sélectionné quelques extraits.
Et oui, les anciens, hein, le patriarche du groupe, Emilio Odebrecht, 72 ans, un bon vivant qui blague souvent avec les procureurs et qui s'est tout de suite mis à table. Voici un exemple de ces dialogues qui ont laissé les Brésiliens quelque peu incrédules. Emilio Odebrecht parle de la corruption dans le Brésil.
Ce système de corruption au Brésil était institutionnalisé. C'était quelque chose de parfaitement normal. Ça fait 30 ans que ça se fait. Toute la presse le savait.
Il y a toujours un bon moment pour commencer.
Je suis tout à fait d'accord. Et vous, jeune procureur, vous aurez tout l'appui de notre organisation, en commençant par moi. Je serai votre collaborateur. Vous verrez.
Alors Odebrecht a décidé de collaborer avec la justice quand il n'y avait plus d'autre option. Le groupe ne peut plus participer aux appels d'offres publics et l'héritier de la famille, Marcelo Odebrecht, fils d'Emilio, a été condamné à 19 ans de prison. Alors Emilio Odebrecht a bien reconnu ses crimes pour la première fois.
Que saviez-vous de l'existence des paiements parallèles ?
Oui, ils ont toujours existé. À mon époque, du temps de mon père et de mon fils aussi. C'était le système qui régnait dans le pays.
Voilà, le système qui régnait dans le pays, et l'on parle, Anne, d'un règne au moins sur 3 générations.
Alors son père est décédé, hein, sinon la justice brésilienne aurait de quoi remonter à la dictature et les années 60. Les délateurs de ce groupe, les cadres, hein, ont cité une centaine de politiques, 17 partis, 9 ministres de l'actuel gouvernement, les 5 derniers présidents en vie et l'actuel président Temer. Tous sont accusés d'avoir reçu des pots de vin ou de l'argent pour leur campagne politique en échange de chantiers. Alors les stades de la Coupe du Monde, les chantiers olympiques, le barrage de Belo Monte en Amazonie ou encore les centrales nucléaires et bien d'autres. Le groupe Odebrecht a énormément grandi avec Lula, du temps d'Emilio, dans toute l'Amérique latine. Et c'est ainsi qu'un des thèmes de la collaboration d'Emilio est le feu président vénézuélien Hugo Chavez.
Que pouvez-vous nous dire de votre relation avec Chavez ?
C'était pour le port de Mariel, qui était très important pour Cuba. Je lui ai dit, écoute chef, puisque c'est une demande de votre part, je vais trouver un moyen d'y répondre. Maintenant, un cas comme celui-là, vous qui avez une bonne relation avec Lula, ce serait bien de lui passer un coup de fil. Ce qu'il a fait. Lula m'a convoqué peu après pour me dire qu'il appuyait complètement le projet.
Mais Lula a favorisé le prêt à la banque.
Ce n'est pas facile, vous savez, d'obtenir des garanties dans un pays comme Cuba.
Bah oui, un pays sans fonds.
Si on devait compter sur les cigares, ça mettrait 50 ans.
Ouais, à ce niveau, hein, on entre évidemment dans un jeu politique et même géopolitique, Anne.
Là, la gauche brésilienne s'inquiète de ces dialogues. Elle dit pourquoi vouloir démontrer que Lula aurait favorisé Fidel Castro et Hugo Chavez alors qu'il ne faisait que son travail de président. Autre exemple pour les défenseurs de Lula, ce dialogue sur l'entrée du Venezuela dans le marché économique, le Mercosur, une entrée qui avait été très contestée par la droite et dans toute l'Amérique latine, mais qui avait été défendue par la gauche.
Et vous avez mentionné aussi la demande de Chavez pour intégrer le marché commun d'Amérique du Sud. Qu'est-il arrivé en termes pratiques pour cette demande ici au Brésil ? Ils ont fait une articulation politique au Parlement ?
Oui, le gouvernement l'a fait. Le gouvernement agissait dans ce sens. Et la position était de trouver un moyen d'y parvenir.
Alors des dialogues comme celui-là, il y en a des heures et des heures, des centaines d'anecdotes, de rencontres, de coups de fil, avec au milieu des confidences, des sacs à dos pleins de billets, des offshore, des paradis fiscaux, etc. Reste que beaucoup de personnes citées dans ces délations nient en bloc et qu'il faudra réunir désormais des preuves.
Et ce qui ne sera guère facile, notamment pour Hugo Chavez, bien sûr. Merci Anne Vigna, correspondante de France Inter au Brésil. Et j'ajoute que les Brésiliens sont appelés demain à la grève générale contre les mesures d'austérité imposées par le gouvernement du président Michel Temer. Un mouvement qui s'annonce particulièrement suivi.
Et après le Brésil à 18h45 sur Inter, direction maintenant la péninsule coréenne, Michael, où l'arrivée imminente du Carl Vinson renforce encore un peu plus les tensions.
Le Carl Vinson, l'un des plus gros porte-avions américains qui a entamé dimanche dernier avec son escorte de destroyers toute une série d'exercices conjoint mené avec la marine japonaise au cœur du Pacifique. Le bâtiment actuellement en mer des Philippines remonte vers le nord-ouest, donc vers la Corée du Nord. Démonstration de force américaine évidemment destinée à dissuader Pyongyang de se livrer à un énième tir de missile balistique longue portée, voire peut-être un sixième essai nucléaire. Toutes les options sont sur la table, insiste Washington. Nous sommes prêts à riposter, répond la Corée du Nord. Le président chinois Xi Jinping appelle lui à la retenue. Bonjour Frédéric Jardias, correspondant de France Inter et des RFI à Séoul.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors d'abord Frédéric, comment les Sud-Coréens vivent-ils ce nouveau regain de tension ?
Eh bien, avec beaucoup de calme, cela peut surprendre, mais il n'y a vraiment aucune panique ici à Séoul. Le principal sujet de conversation, c'est la campagne présidentielle en cours. Les Sud-Coréens éliront un nouveau président dans 2 semaines. En fait, les Coréens sont habitués à une menace nord-coréenne qui plane sur leur tête depuis des décennies, et ils ne croient pas que le dirigeant du Nord, Kim Jong-un, déclenchera une guerre qui serait suicidaire. Madame Kwon, 68 ans, retraitée.
Je ne suis pas inquiète. Les Nord-Coréens nous menacent depuis toujours. Mais en réalité, une guerre ne peut pas arriver. Nous mourions tous, au sud comme au nord. Les tensions, c'est chaque année la même chose. Je ne crois pas que le nord va attaquer. Au pire, ce sera une provocation limitée, comme le torpillage d'un croiseur sud-coréen en 2010. Le problème, ce sont les États-Unis. Est-ce qu'ils vont se tenir tranquilles ?
Eh oui, c'est bien sûr toute la question. Que va décider l'imprévisible Donald Trump ? Provocation ou menace réelle ? Impossible de répondre, Frédéric.
Tout à fait, même s'il faut bien rappeler que l'arrivée de ce porte-avions, qui était au début un coup de bluff et avant tout symbolique, le Carl Vinson était déjà là en mars et personne n'en a parlé. Les États-Unis n'en ont pas vraiment besoin pour se livrer à d'éventuelles frappes au nord. Ils ont déjà 28 000 soldats ici au sud, des bombardiers stratégiques sur l'île de Guam dans le Pacifique, des sous-marins qui patrouillent. En fait, ce qui est préoccupant, ce sont plutôt ces menaces verbales répétées de frappes préventives. C'est pourquoi ici, en Corée du Sud, les récentes attaques américaines en Syrie et en Afghanistan ont suscité une certaine inquiétude, notamment sur les réseaux sociaux. Certains redoutent un mauvais calcul, une escalade accidentelle qui provoquerait un embrasement, comme Kim Song-hoon, 29 ans.
Je suis quand même un peu inquiet, même si c'est vrai que les tensions s'aggravent périodiquement. Juste au cas où, je pense que ça ne peut pas faire de mal de préparer des petites choses, comme faire des provisions ou acheter des masques à gaz, par exemple.
Et qu'est-ce que vous avez préparé vous-même ?
Je continue à aller au travail comme d'habitude. Mais comme je sais que la Corée du Nord possède beaucoup d'armes chimiques, j'ai essayé d'acheter un masque à gaz, mais je n'ai pas pu car tous les stocks sont épuisés.
Mais une frappe militaire américaine en Corée du Nord est-elle jugée, Frédéric, crédible, possible ?
Alors, les experts sud-coréens à qui j'ai posé la question ne semblent pas y croire. Ce serait beaucoup trop dangereux. Les représailles nord-coréennes sur le sud seraient massives. La Chine pourrait intervenir militairement. Un conflit ferait des millions de morts. Ko Myung-hyun, chercheur à l'Institut Hassan à Séoul, n'y croit pas non plus. Et lui voit même un avantage à toutes ces gesticulations de Donald Trump.
Les mots durs de Trump à l'égard de Pyongyang et de Pékin ont forcé la Chine à enfin prendre des mesures sérieuses contre son allié nord-coréen. Par exemple, en renforçant ses sanctions. Mais l'inconvénient, c'est qu'une escalade est exactement ce que veut le Nord. Le régime a compris que ce n'est pas en discutant avec Washington qu'il pourrait atteindre son objectif, qui est de se faire reconnaître comme une puissance nucléaire. Pour obtenir cette reconnaissance, il faut d'abord faire monter très haut les tensions avec les États-Unis.
Ce chercheur estime qu'en cas d'essai nucléaire nord-coréen, les États-Unis devraient juste se contenter de renforcer encore les sanctions. Par contre, il estime aussi qu'en cas d'essai de tir de missile intercontinental, l'armée américaine pourrait chercher à l'intercepter. Et là, personne ne sait comment Pyongyang répondra.
De fait, Frédéric Jardias, correspondant de France Inter et RFI à Séoul. Merci.
Et pour finir, Michael, cet appel aux dons lancé par la NASA.
Ah oui, presque une petite annonce qui pourrait commencer comme ça. Cherche généreux donateur pour payer mes coûteux costumes de campagne. Alors ça vous rappelle peut-être quelque chose, bah, rien à voir, hein, puisqu'ici on ne parle que de campagne spatiale. Et ça coûte très cher une campagne spatiale, y compris en costume, ou plus exactement en scaphandre, Nicolas. Selon un rapport interne rendu public hier, la NASA est très en retard dans la mise au point d'une nouvelle génération de scaphandres spatiaux, un retard de plusieurs années, malgré les 200 millions de dollars déjà déboursés en recherche. Et il y a urgence, puisque les astronautes américains présents, par exemple dans la Station Spatiale Internationale, se servent aujourd'hui de gros scaphandres conçus il y a plus de 40 ans, pour une durée maximale théorique d'utilisation de 15 ans. Alors ces combinaisons ont bien été un tout petit peu modernisées ces dernières années, mais elles ne conviendraient absolument pas à des missions d'exploration lointaine, et puis surtout elles restent très fragiles. Vous vous souvenez de cet incident survenu en 2013, quand l'astronaute italien Luca Parmitano avait failli se noyer dans son scaphandre à cause d'une fuite de liquide durant une sortie dans l'espace. Aujourd'hui, seuls 11 des 18 scaphandres spatiaux dont dispose la NASA sont encore en état de marche, et il n'y a plus assez d'argent tout simplement pour acheter le dernier modèle, d'où cet appel à contribution. Et ça monte vite, tenez-vous bien, prix d'une combinaison permettant sortie dans l'espace, près de 9 millions d'euros pièce, 9 millions d'euros pièce, de loin le plus cher costume au monde.
Michael Thébault, merci.